Nova.
Dans le genre de...
Océan.
Quel genre ?
Grande gueule.
Icône.
Dans le genre...
Femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me l'écorche.
Puissant.
Masculin.
Séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée.
Dominatrice.
Viril.
Macho.
C'est pas mon genre.
Dans le genre, l'émission qui vous plonge au cœur de l'identité et des genres. Une émission de Géraldine Saratia.
Océan, est-ce que vous vous trouvez viril ?
Non.
Bonsoir et bienvenue dans ce 47e épisode de Dans le genre. Je reçois ce soir Océan. Il est comédien et réalisateur. On le découvre il y a une dizaine d'années. Il s'appelle alors Océan Rosemary et se lance, parallèlement à une carrière musicale, dans le One Woman Show. Dans son premier spectacle, le très drôle La Lesbienne Invisible, il s'interroge sur son identité de lesbienne, des clichés qui lui sont accolés, trop féminine. Océan Rosemary désespère en effet de tout le temps être prise pour une hétéro. Il y aura ensuite sur les planches un autre spectacle, le grinçant Chaton Violent, puis la réalisation d'un long métrage, Embrasse-moi, une tentative de rom-com lesbienne. Et puis, il y a un an, à peu près, Océan fait son coming out trans sur le site d'information Committed. Il annonce avoir entamé sa transition de genre et demande qu'on l'appelle à présent Océan. Cette transition, il l'a documentée pas à pas pendant un an dans une série éponyme, Océan, qu'il vient de réaliser. 10 épisodes que vous pouvez voir sur France TV/. On y voit ses transformations physiques, bien sûr, les piqûres de testo, la mastectomie, la voix qui change, mais également les transformations émotionnelles, sociales. L'annonce à la famille, aux amis, ses échanges aussi avec d'autres trans qui partagent leurs expériences. Les scènes avec sa mère, qui lui renvoie ses doutes, ses difficultés, ses résistances à accepter sa nouvelle identité, sont particulièrement touchantes et réussies.
Tu m'avais dit qu'il y avait des gens qui voulaient plus te parler depuis qu'ils ont appris ma transition.
Non, pas qu'ils voulaient plus me parler, mais... Oui, il y en a qui s'est mis en colère.
En colère ?
Contre moi.
Bah enfin, t'y es pour rien.
Bah, je te fais pas dire.
On peut pas dire que tu m'es vraiment encouragée.
Non, on peut pas dire. Il y a des gens qui verbalisent plus en disant « Oui, bon, d'accord, c'est la toute-puissance, quoi. Elle se prend pour Dieu, elle pense que c'est elle qui décide de son sexe. » Il y en a d'autres qui disent aussi... C'est quand même marrant, cette génération où on passe son temps à dire la nature, le vrai, le bio. Mais par contre, bah oui, on change de sexe, comme si ce qu'on a eu à la naissance n'était pas respecté. Donc voilà, des réflexions intéressantes.
Ah, tu trouves ça intéressant ?
Bah, moi, je trouve tout intéressant.
Voilà, c'était Océan et sa mère. Tous les épisodes sont donc en ligne sur France TV/. Vous pouvez également, pour les Parisiens et les Parisiennes, venir le voir en salle lors du Champs-Élysées Film Festival le 24 juin à Paris. Mais pour l'heure, retour sur son parcours, sur son histoire. Ce soir, je vous invite à passer une heure dans le genre d'Océan.
Nova.
Dans le genre.
L'enfance.
Une famille, je dirais, qu'on appelait gauche caviar à l'époque, un peu fucked up, avec un père ancien prêtre et une mère de 15 ans plus jeune, qui était partie de chez elle à 15 ans. Donc, mais bon, voilà, dans le centre de Paris.
D'accord. Un père ancien prêtre.
Mmh.
Ah oui ?
Ouais.
Et c'est quel type d'homme, votre père, par rapport à la virilité, par rapport aux normes du masculin, justement ? Vous diriez quoi de lui ?
C'était quelqu'un de très doux, de très, très très doux, très à l'écoute. Tout le monde se confiait à lui, il était resté un peu prêtre, malgré lui, je pense.
Mais donc, il avait quitté vivre avec votre mère ?
Ouais, et puis parce qu'il n'était pas bien, il en avait marre. Après, c'était des milieux, je dirais, bourgeois, de familles très catholiques, où finalement, ils étaient très incités à rentrer dans les ordres. C'était pas... Si aujourd'hui, ça serait exceptionnel, mais à l'époque de sa génération, c'était assez classique, je dirais. Mais bon, par contre, il était, je pense, très malheureux dans ses ordres. Et donc, il a craqué à un moment. Il faisait de la musique, donc il a commencé à s'échapper, à faire des tournées un peu partout, à écrire des chansons pour d'autres gens. Et puis, en sortant de cet univers extrêmement clos, il s'est dit « Oula, il faut que je respire ». Et donc, c'est pas par hasard, je pense, qu'il a rencontré ma mère. Il est parti à 33 ans, quand même.
33 ans.
Oh, de 17 à 33 ans, c'était quand même long, quoi.
D'accord, d'accord. Donc un homme doux.
Très, très, très doux, ouais.
Et votre mère, quel type de femme ?
Très viril.
Ah oui?
Beaucoup plus que mon père.
C'est vrai? Viril, carrément.
Ouais, non, je dirais que c'était une espèce de Wonder Woman, quoi, de femme extrêmement puissante, très belle, très intelligente, qui réussit tout, qui fait des enfants, qui travaille, qui cartonne, enfin voilà. Une espèce de puissance comme ça, un peu insurmontable, qui en effet, je pense, a lutté contre sa propre masculinité, en fait. Donc du coup, elle n'était pas du tout féministe. Bizarrement, mais en même temps, tout ce qu'elle faisait dans sa vie était que de la prise de pouvoir, quoi. Donc, je pense qu'elle a négocié, qu'elle négocie encore avec ça.
Donc, une mère assez impressionnante, quand même.
Ouais, assez imposante, assez impressionnante. Plutôt sympa, mais assez autoritaire.
Et entre eux, c'était comment, en fait, là? Il y avait une répartition classique, pas classique? Parce que tout le monde, votre mère avait...
Bizarrement, assez classique, dans le sens où c'est quand même plus ma mère qui s'occupait de nous. Mon père travaillait énormément.
Votre mère, elle faisait quoi, pardon, déjà?
Ma mère, elle travaillait dans du conseil en ressources humaines.
D'accord.
Du coup, elle était quand même assez présente, même si elle était très active. Mais mon père était, lui, il bossait vraiment non-stop. Il bossait dans la musique, au début dans l'édition, la production. Donc, il pouvait disparaître, vraiment tard le soir aussi. Travailler la nuit et tout. Et du coup, c'était quand même elle qui a pris en charge, le plus au quotidien, on va dire, notre éducation.
On écoute un titre que vous avez choisi pour nous, un titre que vous écoutiez un peu enfant, je crois, « Tous les cris, les SOS » de Daniel Balavoine. On écoute ça.
Comme un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seul. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des camps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Difficile d'appeler quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent sans comprendre la détresse des mots que j'envoie.
Océan.
Voilà, c'était Daniel Balavoine sur Nova, un choix d'océan. Ça vous rappelle quoi, Daniel Balavoine?
Ça me rappelle mes premiers émois avec la musique, parce que c'était des 45 tours. Et donc, c'est un des premiers 45 tours qu'on a eu et qui m'était dans un état émotionnel indescriptible, quoi. Vraiment, la chanson me cueillait et je pense que c'était un de mes premiers émois musical.
À cause de sa voix aussi?
La mélodie, la voix. Ouais. Je comprenais pas très bien ce qu'il racontait, mais ça m'a jamais posé de problème. C'est comme en anglais, j'ai pas besoin de comprendre les paroles.
On parlait de vos parents. Vous étiez quel type d'enfant ?
Moi, j'étais pareil. J'ai très peu changé. Hein. Je dois dire que j'ai à peu près la maturité.
Racontez à nos auditeurs.
Depuis mes 5 ans. Bah, plutôt toujours sympa, qui fait des blagues. Je me décrirais comme un labrador, quoi. Un labrador humain. Mais bon, aussi, qui prend beaucoup de place et qui aime bien être au centre de l'attention. Mais sympa. Voilà.
Vous aviez des frères, des sœurs ?
Ouais, j'ai grandi avec deux sœurs, une plus âgée que moi de 2 ans et une de 5 ans de moins. Et ensuite, on a une amie qui était elle-même plus ou moins réfugiée cambodgienne, qui est venue vivre chez nous quand j'avais 10 ans. Donc, on était à l'époque 4 filles. Et ensuite, ma mère nous a eu très jeunes. Et puis, plus tard, mes parents divorcés, elle s'est remariée. Elle a eu 2 enfants, donc, avec un homme qui lui-même avait 3 filles. Et ils ont d'abord eu une fille. Donc, il y a eu un moment où il y avait quand même 7 filles. Et après, ils ont eu un garçon, donc mon petit frère a 7 sœurs.
D'accord. Et vous étiez dans les premiers, dans les derniers ?
Bah, nous, on était tous les plus âgés, ouais. Ouais.
Sur vos 3 sœurs, vous
ouais,
êtes...
Ouais, je suis au milieu, moi.
Vous êtes au milieu, ouais. D'accord. Donc vous disiez un enfant assez drôle, vous étiez ouvert avec les
ouais,
autres.
Très.
Et donc, à l'âge où il faut devenir une jeune fille, une femme, la féminité, ça a été comment pour vous d'aborder ça ?
C'était toujours problématique, je dirais. Enfin, pas très. C'était quelque chose de compliqué pour moi.
Consciemment ?
Peut-être pas consciemment, parce que. Mais ce qui est sûr, c'est que je préférais tout ce qui a. Enfin, plutôt ce qu'on attribue aux garçons, quoi. Mmh. Même dans les habits, les jeux, le comportement. Et bon, après, j'ai négocié avec ça pour faire la fille, on va dire. Mais.
C'est-à-dire que vous avez adopté des signes du féminin
Oui, voilà, j'ai eu à l'adolescence des phases voilà, où je m'habillais plus en fille, où je mettais des jupes, des robes, mais ouais, vraiment ouais. Parce qu'il fallait, quoi. Je sentais qu'il fallait.
Ah ouais, c'était. Ouais.
Ben, je sais pas, mais c'était tout seul, hein, je me suis. Enfin, tout seul, c'est des pressions que j'avais intériorisées, en fait.
Ouais, ouais.
Sur finalement une norme. Ouais, hétéro, cis, enfin voilà, j'avais rien déconstruit. Et je pense que, même si j'étais dans un milieu très ouvert et assez libre, où je pouvais faire ce que je voulais, où on était très autonome très tôt, je dirais que sur le genre et même sur l'orientation sexuelle, c'était pas évident, quoi. J'ai mis beaucoup de temps à accepter que j'étais lesbienne à l'époque.
Vous l'avez compris vers quel âge, vous ?
Je l'ai compris vraiment à l'adolescence, je pense, même si c'était sûrement... là depuis toujours et après j'ai mis du temps à le vivre, quoi, parce que je pense que ça me faisait peur, où je me disais que c'était moins bien d'être lesbienne, donc du coup je m'arrangeais pour me mettre que dans des situations de rejet, donc de tomber amoureux de filles qui voulaient pas de moi et
de filles hétérosexuelles,
ouais,
filles...
ouais,
d'accord,
voilà.
D'accord.
Et puis voilà, mais j'ai commencé à vivre ma vie vraiment à m'assumer vers 19-20 ans, quand même, c'est tard. Et puis après, c'était super. Quand j'ai compris que c'était aussi bien d'être lesbienne qu'hétéro, ça a été.
On écoute une autre chanson que vous avez choisie pour nous aux séances. C'est un titre de Janis Joplin, Summertime.
Thank you. you're gonna rise, rise up singing. You're gonna spread your wings, shout and take to the sky. Nothing's going to harm you now. Na 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 na. Don't you cry.
C'était Janis Joplin sur Nova. On est toujours avec Océan. Océan, à l'adolescence, est-ce que vous aviez des modèles d'identification ? Est-ce qu'il y avait des modèles de féminité ou de masculinité ? Je crois que vous aimiez beaucoup la musique, donc peut-être prise dans la musique, dans la pop musique, dans le cinéma, auquel vous vous identifiez ou qui vous aidait, comme ça ?
Bah, Janis Joplin, justement, oui, c'était vraiment... J'ai fait une grosse fixation sur elle. Je pense, justement, parce qu'elle avait quelque chose qui était vraiment de l'ordre de... À la fois de la fragilité, de la force, de la puissance, en tout cas. Et de, en tout cas, de transformer sa fragilité en force. Et qu'elle a quelque chose d'assez viril, je trouve, aussi.
Ouais, ouais.
Dans ce qu'elle dégage, dans sa voix, dans son approche de la musique. Et donc, j'ai été très, très, très obsédé par elle, je dirais, à l'adolescence. C'était un peu mon modèle. Et puis musicalement aussi, c'était tellement fou ce qu'elle faisait que j'ai passé beaucoup de temps à l'écouter. Ouais.
Vous le disiez à l'époque, à l'adolescence, donc vous avez découvert que vous étiez lesbienne à l'époque, donc attirée par des filles. Est-ce que vous regardiez les garçons aussi ? Est-ce que vous regardiez le corps des garçons ? Est-ce que c'était quelque chose qui avait une fascination là ou pas ?
Oui, il y avait. Disons que j'avais encore des histoires aussi avec des garçons parce que je pense que je sentais que c'était. Voilà, un truc de survie sociale, que c'était mieux, enfin entre guillemets. Donc je me suis convaincue que j'étais attirée. En fait, j'avais quand même du désir, je pense, comme un ado, quoi. Donc quand j'avais des rencontres avec des garçons qui étaient gentils et mignons, je vivais quand même des histoires. Et clairement, j'avais de la jalousie, je pense, mais que j'osais pas me formuler comme telle. Mais j'étais clairement attirée par leur corps, mais dans une relation de désir mimétique.
Ouais, d'identification.
D'identification,
plus,
de, ouais, voilà,
d'envie.
J'aurais voulu avoir ce corps-là, mais je n'étais pas vraiment capable de me le formuler aussi clairement à l'époque.
Dans le genre de...
Océan.
Quel genre ?
Grande gueule.
Icône.
Élégant.
Dans le genre de femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me l'écorche.
Puissant.
Masculin.
Musclé. Séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée.
Dominatrice.
Viril.
Vous êtes toujours sur Nova, vous êtes toujours dans le genre du comédien et réalisateur Océan. Il vient de réaliser une série documentaire sur sa transition, elle s'intitule Océan, est disponible sur France TV/. On va en parler bien sûr, mais avant on continue en musique avec un titre de sa sélection. C'est un titre de Björk, extrait du premier album de Björk, The Anchor Song. C'est un titre de 1993.
This is my home.
And during the night, this is my home.
Genre 2.
Océan.
C'était Björk. Océan, vous me disiez que c'était une chanson qui vous faisait penser à vos années de musicienne, puisque vous avez fait de la musique, vous avez sorti des albums. Là, on en était resté dans cette émission à votre adolescence. Puis vous faites des études de lettres, vous partez vous installer à Marseille, je crois, ouais. En 98. Ouais. Là-bas, vous sortez deux disques sous le nom de
Ocean.
Ouais. Et puis après, vous restez quelques années à Marseille, vous rentrez à Paris, et en 2008, vous commencez à écrire le premier spectacle qui va vous faire vraiment connaître, qui était La Lesbienne Invisible. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est un spectacle qui a plus de 10 ans. Je crois qu'il y a encore, vous l'avez joué très longtemps et qui est encore joué aujourd'hui par une comédienne. Aujourd'hui, avec le recul, ce spectacle, vous diriez que c'est un spectacle qui vous a permis d'assumer votre identité, votre homosexualité à l'époque. Qu'est-ce que vous en diriez aujourd'hui ?
Je dirais qu'il a été, il a été extrêmement vertueux pour moi, ce spectacle, parce que il m'a permis d'assumer complètement mon homosexualité, même si c'était déjà le cas dans ma vie privée et que j'étais out, mais en tout cas d'en faire quelque chose de très positif et d'empouvoirant, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire que de dire, c'est génial d'être lesbienne, quoi, et donc de vraiment se débarrasser définitivement de l'idée que c'est moins bien d'être homosexuel.
Ouais, parce que dans le pitch, c'était le problème de cette jeune femme lesbienne, c'est que, en fait, les gens ne voyaient pas qu'elle était lesbienne parce qu'elle était féminine, et donc il y avait une espèce de conflit comme ça entre l'expression d'une orientation sexuelle et la féminité en fait, et c'est un peu ça que le spectacle résolvait.
Oui, tout à fait, et en même temps avec ce personnage qui était fasciné par les butch aussi, c'était un spectacle qui se voulait très... Qui parlait à toutes les lesbiennes, en fait, parce que c'était finalement toutes les petites choses auxquelles on est confrontés, les discriminations quotidiennes, on va dire. Après, clairement, ce que je lis aujourd'hui, que je n'identifiais pas du tout à l'époque, c'est que d'avoir un hétéro-passing, ce qu'on appelle un hétéro-passing,
c'est-à-dire... Alors, qu'est-ce que
c'est ? C'est passer pour hétéro. C'est-à-dire que, finalement, d'accentuer ma féminité dans mon style, alors que même dans la vie quotidienne, j'étais pas aussi féminin.
Mais vous aviez un style assez féminin en tant que lesbienne.
Voilà. Mais spécialement sur scène, et spécialement pour ce spectacle, c'est-à-dire que j'ai accentué mon hétéro-passing, je pense, parce que je sentais que c'était... mais encore une fois, je ne me le suis pas du tout formulé comme tel, mais que c'était une stratégie de survie. C'est-à-dire que dire « je suis lesbienne, mais entre guillemets, je suis féminine, je suis mignonne, je mets des robes et je suis dans les codes de la féminité », ça rassure la majorité et quelque part l'homophobie aussi générale. C'est-à-dire les gens... Et c'est un truc que j'ai dû déconstruire quand j'ai fait le spectacle, au fur et à mesure que ça marchait et que je commençais à être médiatisée et que j'avais des retours du genre « non mais toi ça va ». Et là, j'ai commencé à dire, comment ça, moi, ça va? Non, moi, ça va pas. Moi, ça va pas plus ou moins que des butch, que des filles qui s'épilent pas, qui ont les cheveux courts. Enfin, je veux pas qu'on commence à dire qu'il y a des lesbiennes qui sont OK et des lesbiennes qui sont pas OK. Et là, tout d'un coup, j'ai commencé à me rendre compte que ça pouvait être un piège, en fait. Alors qu'au départ, j'étais très naïf, je me disais juste, oh, bah, les gens ont juste l'image des lesbiennes hyper masculines, alors qu'en fait, il y a plein d'autres filles qui sont lesbiennes, c'est juste que ça se voit pas. Et donc, je vais parler d'elles. Mais après, j'ai vu comment le truc pouvait se retourner et dont moi, je ne voulais pas tirer profit. Et à partir de là, j'ai commencé à bouger, à quitter ça. Et donc, je me dis qu'à l'époque, d'accentuer ma féminité, c'était aussi pouvoir être visible, bizarrement, et être entendue. Et dès que je l'ai perçu, j'ai complètement changé de stratégie parce que ça me dégoûtait. Mais c'est des choses que parfois on fait intuitivement. Et puis, j'avais pas tort d'un point de vue purement stratégique, c'est mon inconscient, parce qu'encore une fois, c'était mon inconscient. Parce que c'est vrai que ça m'a permis d'être entendue, d'être invitée sur des plateaux, mais parce que c'était genre la lesbienne.
Une lesbienne représentable.
Acceptable
pour les médias.
Et bon, en fait, c'est, quand on y repense, c'est terrible.
Alors, ce spectacle, en même temps, il vous a permis, puisque vous l'avez traîné, pratiqué pendant des années, il vous a permis aussi de réfléchir sur vous-même, d'évoluer, ce que vous disiez, même de questionner votre rapport à votre féminité, à votre masculinité. Ouais. Et puis, donc, il y a à peu près un an, le 17 mai 2018, donc c'était le jour de la journée mondiale de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, vous avez fait votre coming out dans une vidéo qui était postée sur le site d'information Committed. Vous reveniez sur votre parcours, sur ce que spectacle vous avez apporté, justement, et vous annonciez votre décision de changer de genre et vous demandiez qu'on vous appelle désormais Océan. Alors, ce coming out, vous l'avez voulu dès le départ, intime et politique ?
Oui, bah, de toute façon, à partir du moment où j'ai décidé de passer à l'action, on va dire, et de faire ma transition, j'étais obligée de le faire publiquement. Et ayant quand même une communauté de fans ou de gens qui me suivaient, c'était très important pour moi de m'adresser avant tout à ma communauté. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce coming out sur Committed, qui est un média LGBT. Oui. Parce que, en fait, j'aurais pu le faire dans n'importe quel média. C'est toujours. Les médias sont toujours contents d'avoir. Ils auraient bien aimé l'avoir. Et justement, je voulais pas du tout faire un truc genre mainstream ou quoi, parce qu'au fond, je considérais que ça regardait avant tout les gens qui me suivaient. Et je voulais justement dire aux lesbiennes et à mes fans lesbiennes que je les abandonnais pas et qu'en plus, moi, j'adore le spectacle La Lesbienne Invisible, même si moi, je pourrais vraiment plus jouer aujourd'hui. Et donc, j'ai fait exprès de le remonter avec Marine Baousson, qui, elle, est justement une lesbienne invisible et donc qui est une super comédienne. Et je sais qu'il y a plein de filles qui s'identifient à ce spectacle, donc je voulais qu'il continue à exister. Donc voilà, donc c'était évidemment politique et en tout cas, j'ai voulu le faire comme ça, dans un écrin aussi, où j'avais une liberté de parole, du temps que j'allais prendre pour le dire, etc.
Et pourquoi vous avez décidé de le dire en même temps, j'allais dire si tôt, moi j'en sais rien, en même temps, c'est peut-être pas si tôt du tout pour vous.
Non, c'était pas si tôt, parce que j'avais commencé, comme on le voit dans mon film, mon traitement hormonal à prendre la testostérone en janvier, et c'était en mai, donc j'ai quand même attendu quelques mois, et de toute façon, j'étais obligée de le dire, parce que j'étais en train de changer. Ma voix changeait, mon corps changeait, enfin, à partir du moment où j'ai
essayé de m'hormoner. Vous jouiez sur scène à l'époque, d'ailleurs.
Je jouais Chaton Violent, mon deuxième spectacle, et donc c'était pas évident, parce que je me genrais encore au féminin sur scène, ce qui était très pénible, justement. Tous ces mois où moi j'avais déjà quand même pris ma décision, officialisé mon changement de genre avec mes proches, mais je pouvais pas du coup le faire sur scène. Donc j'étais obligée de le faire, quoi.
Alors vous disiez justement dans cette vidéo avoir compris que le masculin en vous avait toujours été contrôlé, écrasé. Vous pouvez m'en parler un peu de ça ?
Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où je pense que de pas du tout avoir eu la possibilité de penser le genre autrement que comme complètement connecté au sexe biologique et au sexe assigné à la naissance, ça a fait que j'avais une espèce de poids comme ça, de pression pour performer la féminité, quoi. Et du coup, tout ce que j'avais de masculin, je le vivais comme un échec ou comme quelque chose de négatif, enfin, ou en tout cas qu'il fallait un peu transformer d'une manière qui le rendent positif, etc. Donc,
parce que la masculinité, en tout cas, à l'époque, chez les femmes lesbiennes, c'est quelque chose qui reste mal perçu, vous pensez ?
Je trouve, ou en tout cas, moi, dans on va dire, ma cartographie psychique, dans cette famille dans laquelle j'avais grandi, et encore une fois, avec une mère, finalement, qui était peut-être pas si sereine sur ces questions-là, même si on voit dans le film qu'elle est extrêmement, elle semble extrêmement claire, je pense qu'elle l'est moins que ce qu'elle le dit. Je le vivais comme ça, en tout cas.
On écoute une chanson que vous avez choisie pour nous et puis on continue à parler de vous. C'est une chanson d'Etta James, I'd Rather Go Blind.
Dans le genre de...
Océan, l'acquisition de ces nouveaux codes, justement, de masculinité. On le disait, vous venez de sortir une série documentaire dans laquelle, effectivement, vous documentez cette transition pendant un an. Alors, il y a le corps, d'abord, il y a tous les changements physiques. Il y a la première piqûre, il y a la mastectomie, il y a l'entraînement physique pour changer ce corps, pour le muscler. Est-ce que, d'abord, c'était très important pour vous de modifier votre apparence? Et est-ce qu'il y a eu un plaisir dans la découverte de ces codes de masculinité? Enfin, comment ça se passe?
C'est une... On pourra passer beaucoup de temps à y répondre, essayer de faire court. Il y a évidemment un plaisir de l'expérience, ce que j'appellerais un plaisir de l'expérience, c'est-à-dire de faire cette traversée finalement, d'être perçu socialement différemment et donc de encore une fois performer son corps et son apparence différemment. C'est évidemment très agréable, surtout dans mon cas et dans le cas de tous les trans, quand en fait on se sent plus juste à cet endroit-là. C'est-à-dire que dans mon cas, c'était pas une question de survie, comme peuvent en témoigner beaucoup de personnes trans qui vont mourir en fait s'ils changent pas de genre. Moi, je pourrais pas dire que c'était à ce point-là, puisque je l'ai fait assez tardivement et que j'étais quelqu'un d'heureux avant ma transition.
Mais il y avait une souffrance quand même.
Pour autant, il y avait quelque chose, mais que je m'empêchais de penser, quoi, qui était un impensé en fait. Je pense justement pour survivre, encore une fois, qui était une stratégie de survie. Et qu'une fois que je l'ai déconstruit et que je l'ai vu et que je l'ai perçu, c'était impossible de faire demi-tour, quoi. Et à partir de là, il y a évidemment un plaisir, puisque tout d'un coup, d'avoir plus que des habits de garçon, et de pouvoir continuer à faire de la muscu sans que tout le monde nous regarde de travers. Finalement, c'est la pression sociale le problème, c'est pas tellement notre corps, hein. Bon, moi, justement, comme je viens d'un endroit assez normatif, même si politiquement, je trouve que ce qu'il y a de plus intéressant aujourd'hui, c'est de pouvoir se dire trans sans s'hormoner et sans s'opérer. Je veux dire, je sais que c'est pas là que ça se joue et qu'il faut être absolument ouvert à comment les gens se définissent, peu importe ce qu'ils font, ce qu'ils modifient physiquement. On peut tout à fait garder le même corps et décider de changer de genre. Dans mon cas, il y avait évidemment un bien-être qui arrivait avec un corps qui devenait plus masculin, on va dire, même si c'est des archétypes et des codes et des conventions. Et puis, c'est une question un peu large, mais...
Ouais, bien sûr. Et dans le film, donc, on voit ces changements physiques, on voit aussi tous les changements qui s'opèrent. Parce que vous dites donc tous les changements sur votre entourage, leur réaction. Il y a votre mère, évidemment, on va en parler, c'est des scènes qui sont géniales. Et puis, il y a vos amis, il y a l'entourage, il y a l'environnement professionnel. Et vous dites notamment, il y a une scène comme ça, vous annoncez votre transition à toute votre famille. Enfin, et vous dites que vous étiez épuisée d'être une femme. Et ça revient plusieurs fois, que comme la féminité était un fardeau.
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'était jamais quelque chose dans lequel je me sentais tout à fait juste et bien, même si j'étais pas capable de comprendre pourquoi. Et donc, il y a eu un épuisement, forcément, et à partir du moment où j'ai pu penser ma transidentité, tout simplement, parce que j'ai rencontré des personnes trans, parce que j'ai lu des choses, enfin, féministes, finalement, qui déconstruisent le genre. Je vais lire Wittig, déjà, ou même des pentes, finalement, c'est le début de la déconstruction.
Ouais.
Même si ce ne sont pas forcément des livres qui parlent, même si ce sont des livres qui ne parlent pas de transidentité. Mais ça ouvre.
Wittig parle déjà de notre ordre, que l'ordre hétérosexuel, hétéronormé.
Et puis que les femmes, c'est un groupe social, que c'est une classe presque, c'est la classe des femmes, et que donc finalement ça n'a rien à voir avec le sexe biologique et tout ça. Et l'épuisement il vient de là. Alors je tiens à préciser, parce qu'il y a des gens qui me l'ont qui me sont un peu tombés dessus à cause de ça, quand les gens disent bah oui mais toutes les femmes sont épuisées d'être des femmes, puisque de toute façon c'est les femmes sont discriminées, et je dis et moi je m'inscris évidemment dans cet épuisement là, mais il y avait un autre épuisement aussi, qui est l'épuisement de pas me sentir en adéquation tout simplement avec
plus
mon genre
intime,
assigné
en fait.
Donc c'est un double épuisement, on va dire.
Qu'est-ce que ça a changé pour vous depuis que, en tout cas, la perception que les gens ont de vous correspond à la façon dont vous vous percevez, depuis que vous définissez comme un homme trans, ce qui est différent d'un homme cis.
Ouais.
Qu'est-ce que ça a changé pour vous, par exemple, dans le film, on vous voit un peu avec une jeune femme, enfin dans vos relations amoureuses, par exemple. Est-ce que ça a changé beaucoup de choses?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me sens mieux quand même. Je me sens mieux, et donc je pense que je suis plus cool aussi dans la vie en général et dans mes relations aussi. Je suis plus à ma place, je me sens mieux. Je suis plus doux. En fait, c'est bizarre, c'est que on imagine que transitionner, ça peut, ou même prendre la testostérone, ça va rendre agressif, etc.
Ouais, ouais.
Et en fait, pour moi, comme pour beaucoup de trans, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que ça m'a tellement calmé. Enfin, c'est tellement.
Ça vous a apaisé.
Ouais, ça m'a tellement apaisé que je suis beaucoup plus calme. Mais plus doux, plus ouvert aussi, je pense, parce que je suis moins préoccupé par ces choses. Enfin, c'est toujours pareil, quand on va un peu moins bien, on est moins doux et moins ouvert aux autres aussi. Donc, et puis ça pose tout le temps la question de la masculinité. Je vois comme je me reconnais pas dans les mecs cis, parce que eux, ils ont toujours vécu comme des hommes. Alors après,
et alors pourquoi vous reconnaissez pas?
Bah parce que du coup, moi, mon expérience, elle est tout le temps. Enfin, toutes les situations que je vis, même si tout le monde m'appelle monsieur et me perçoit comme un homme,
ouais, ça vous passez, comme on dit.
J'ai un cis-passing. Ouais. Après avoir eu un hétéro-passing de meuf, j'ai un cis-passing d'homme. Mais à chaque fois, ça me fait marrer, ou ça m'étonne, ou ça me contrarie. Enfin, je peux pas du tout apprécier des privilèges s'ils se font au détriment des femmes. Donc toutes les situations.
C'est-à-dire des privilèges qui seraient ceux des hommes hétérosexuels dans notre société.
Bah oui.
Comme quoi par exemple?
Bah comme je sais pas, je me retrouve dans un endroit où il y a des mecs qui font des blagues sexistes, je vais pas rigoler avec eux. Enfin, ça va pas me faire rire en vrai. Comment dire, autant je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus juste, etc. Et en même temps, toutes les situations qu'on pourrait dire, ah bah tu vas profiter d'être un mec, bon, pas tant que ça en fait.
Est-ce que ça vous l'avez senti? Parce que c'est intéressant, enfin moi ça m'intéresse quoi.
Ouais.
Enfin, c'est des choses que certains trans disent. Est-ce que voilà, quand on devient un homme, même si un homme trans, mais qu'on est identifié et reconnu comme tel, est-ce qu'on a l'impression que ça place dans l'espace social, dans les interactions qu'on a avec les autres êtres humains, est-ce que ça change?
Ouais, quand même, ça change. Ça change l'écoute des gens. Après, moi, j'étais déjà dans une situation de privilège très forte, et puis quelqu'un d'assez grande gueule qui s'impose, etc. Donc,
ouais.
Mais je vois que pour des copains qui étaient plus effacés avant, ou qui étaient même très mal dans leur peau en tant que femme et tout, ça a complètement changé leur vie. Moi, je le sens dans les endroits neutres, entre guillemets, où les gens ne me connaissent pas, parce que finalement,
Et
c'est par exemple de voir la violence des hommes en fait par rapport aux femmes, c'est une blessure à chaque fois quoi. Ou ça m'est arrivé par exemple de me retrouver dans la rue derrière une femme, il y avait un petit passage un peu sombre et tout, et je l'ai vu se retourner et me regarder, et j'ai vu son inquiétude, j'ai vu son corps se tendre, et c'était, pour moi, c'est physiquement. Enfin, ça me fait mal physiquement parce que je sais exactement ce qu'elle ressent, parce que je l'ai ressenti dans ma chair, et c'est en ça que pour moi c'est important de dire que je suis un homme trans, parce que cette expérience-là, aucun homme cis ne, alors même s'il peut développer de l'empathie et comprendre, il pourra jamais ressentir physiquement dans sa chair ce qu'une femme ressent quand elle se retrouve dans un endroit où elle check, elle regarde. Donc moi, du coup, c'était horrible parce que je me dis putain, ça la met sous pression, donc je fais hyper gaffe à être hyper avenant, à prendre la bonne distance. Enfin, et en fait, c'est pas, pour moi, ça, c'est pas un privilège, en fait. C'est horrible de déclencher ça, en fait, chez les femmes. Donc, en fait, ça fait plus des moments où ça me rend triste, en fait. Tu vois, ça m'est arrivé d'être dans l'avion. Je me souviens, Et la meuf, je sais pas, elle arrivait pas à brancher son casque. Et elle regarde et elle fait vraiment, mais nous les femmes, tu vois, un peu en s'excusant comme ça. Et j'ai envie de dire, mais meuf, mais vraiment te dévalorise pas. Enfin, vraiment, arrête. Moi aussi, je suis nulle. Enfin, n'importe quel. On est tous nuls à mettre le casque, c'est pas genre. Et je sais que si j'avais. Et elle m'avait vue comme une femme, elle aurait pas fait ce truc-là.
Ouais.
Et d'effacement, d'excuses, de se dévaloriser comme pour me rassurer moi, quoi. Et c'est en ça que, du coup, toute ma colère, finalement, par rapport aux hommes, si c'est à la domination patriarcale, elle est bien plus grande aujourd'hui. Je suis tout le temps, parce que du coup, je les perçois plus, ces trucs-là. Je les perçois plus qu'avant. Donc, je suis tout le temps. Enfin, je suis beaucoup plus féministe, beaucoup. Enfin. Je suis beaucoup plus radicale dans mon féminisme qu'avant et beaucoup plus en colère et beaucoup, j'ai beaucoup plus envie tout le temps de dire aux femmes de prendre la force, de se faire confiance, de pas s'écraser. Et après, par rapport aux hommes, c'est compliqué encore maintenant parce que comme ça fait peu de temps que j'ai un cis-passing, je sais pas encore comment me comporter avec eux, comment je peux les engueuler.
Quand vous êtes
les
avec
engueuler,
un groupe d'hommes
ouais, voilà, parce que du coup, je sais que leur réaction va être différente, quoi. Par exemple, une fois, je sors d'un resto tard, je vois un couple bourré. Enfin, un couple, un mec et une meuf qui ont l'air d'être ensemble, qui lui, il lui gueule dessus, genre il est assez violent, quoi. Bon, après, c'est dans une rue, il y a du monde et tout, c'est pas. Mais je me dis, bon, bah, je fais quoi? Parce que si j'y vais et que je lui dis, hé, calme-toi, lui parle pas comme ça, déjà, lui, il a envie de péter la gueule en vrai de cette meuf. Donc, comme moi, je vais arriver en tant que mec, il va me péter la gueule à moi. Et moi, comme j'ai jamais appris à me battre, j'étais une petite bourge, je sais même pas me défendre, même pas me battre. Et par ailleurs, la meuf peut aussi me dire, non, mais attends, tu t'es pris pour qui le chevalier blanc? Laisse-moi tranquille, je gère mon gars, tu vois. Donc, je me retrouve plein de fois dans des situations assez inconfortables où je sais même pas comment je dois me comporter et j'y réfléchis en permanence et j'ai pas encore trouvé toutes les solutions, quoi. Surtout face à la violence des mecs cis.
Est-ce que votre entourage a changé ou pas du tout?
Oui, je dirais que cette année 2018, ça a été un peu vraiment fatigant aussi, les réactions de l'entourage, des gens qui posent toujours les questions. Bon, en plus, quand on est comme ça, out, et que moi, je voulais montrer vraiment une transition positive et joyeuse, j'arrivais avec un truc genre, hey, je vais super bien, et du coup,
ça,
les gens.
Ça, c'était important pour vous que justement, il y ait une positivité.
Ouais, c'était très important, bah, pour moi, à titre personnel, parce que voilà, c'était quand même une émancipation, et je voulais, voilà, que ça se sente. Et aussi pour donner ce message-là, quoi, comme j'ai fait avant sur Lesbienne, c'est un peu mon truc, c'est dire, on faut aussi donner des représentations positives pour donner de la force aux plus jeunes. Enfin, jeune dans leur transition, on peut avoir 60 ans et être un bébé trans. Et du coup, donc j'étais très ouvert et toujours très cool et je répondais à toutes les questions et ça m'a épuisé aussi, quoi, parce qu'en vrai, les gens sont ultra intrusifs et pas toujours délicats et en fait, on a l'impression de devoir se justifier tout le temps. Du coup, au bout d'un moment, j'ai vraiment eu besoin de traîner beaucoup plus dans un milieu queer et trans et donc j'ai une nouvelle bande de copains en fait aussi avec qui on peut enfin en rigoler, souffler et pas tout le temps être en train de faire de la pédagogie, répondre aux questions parce que sinon, notre vie entière. C'est faire de la pédagogie. Donc c'est vrai qu'il y a des amis dont je me suis éloignée, des gens qui sont un peu trop dans un peu trop cis-être comme on dit.
dans le questionnement aussi, c'est ça?
Ouais, et puis c'est genre tellement dans l'incompréhension que c'est voilà, c'est juste que même si je les aime beaucoup et que je les retrouverai sûrement, et là je suis dans des moments où j'ai besoin aussi de me protéger. Mais c'est potentiellement irréversible aussi, hein, c'est-à-dire que c'est quand même fatigant d'être tout le temps avec des gens qui sont à côté ou qui peuvent être un petit peu indélicats et tout. Donc, j'avoue qu'être dans un milieu queer me procure beaucoup de. Enfin, voilà, j'ai un peu découvert ce que ça voulait dire, les endroits safe, les personnes safe. Et je suis beaucoup plus sensible à ça maintenant.
Dans votre série documentaire, justement, par rapport à. Une des personnes qui vous questionne le plus, finalement, c'est votre mère, en fait. Et en même temps, c'est un point d'identification, hein, pour la personne qui regarde, parce que voilà, elle pose un peu toutes les questions quand on ne connaît pas forcément ces problématiques-là. Ou bon, voilà. Mais ce regard-là, il a été compliqué pour vous, parce que votre mère, pendant pas mal de temps dans le film, elle dit qu'elle doit faire le deuil de ses années. Vous lui dites, bon, il n'y a personne qui est mort, il n'y a pas de deuil à faire. Pour vous, c'est une continuité, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Et puis c'est hyper violent quand on nous dit ça. Et puis les parents disent souvent ça. Hein. C'est vraiment la notion de deuil, elle revient très souvent. De manière plus ou moins violente, comme on le voit dans l'épisode où j'ai un pote qui raconte que sa mère a fait un hôtel à sa fille morte et que quand les gens venaient, elle lui demandait de dire qu'il était son frère, le frère de cette fille morte. Mais bon, ça, c'est très, très classique finalement. Et pour nous, c'est hyper violent parce que nous, on se sent plus vivant que jamais. Finalement, on est enfin, c'est plutôt l'impression de. C'est pas de renaître, je trouve, c'est de s'accomplir, de s'émanciper, de devenir vraiment soi et d'être bien. Donc, honnêtement, j'ai filmé ma mère parce que je savais que ça serait une porte d'entrée pour plein de gens qui ne connaissent rien à la transidentité et qui allaient forcément s'identifier à elle et à son rejet aussi. Pour autant, pour moi, ça a été pénible parce que tout ce qu'elle m'a dit était quand même très violent et les gens perçoivent pas toujours à quel point c'est violent tout ce qu'elle peut dire. Mais bon, c'est comme ça. C'est intéressant de voir aussi comment les gens réagissent à la mère. Souvent, les personnes trans la trouvent hyper dure et sont très choquées, mais parce que c'est des choses auxquelles ils sont confrontés aussi. Et les gens qui n'y connaissent vraiment rien et qui ne sont jamais posés de questions sur ou qui ne connaissent pas de trans, ils sont là, oh, elle est vraiment super ta mère, elle est trop sympa. Et moi, je suis là, écoute, c'est les deux, je dirais. Mais après, elle est complexe, c'est l'intérêt du personnage, et je crois que c'est pour ça que ça en fait un personnage important dans le film, c'est que elle est là, elle-même, elle ne me lâche pas, mais pour autant, elle est hyper violente. Donc voilà, c'est la complexité de la vie.
Dans votre série, on vous voit à un moment aller chez votre agent. Donc maintenant, vous êtes un comédien masculin.
Ouais.
Identifié comme un homme. Est-ce que ça, vous pensez que ça va compliquer votre accès à votre métier ou vous avez des offres? Enfin, comment ça se passe?
Ben, pour le moment, c'est pas la folie. C'est-à-dire que j'ai pas du tout passé de casting pour des rôles de mec cis. Donc, est-ce que je sais pas si c'est parce que les gens ont pas envie de me voir au sens que je ne correspond pas forcément au profil qu'ils cherchent, ou c'est parce qu'ils se souviennent de moi encore comme Océane, Rosemary. Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que c'est plus facile pour les mecs trans qui se sont fait connaître en tant que mecs trans avec déjà un cispassing, parce que du coup, les gens les voient comme des hommes. Moi, je pense que je porte un peu encore quand même le fardeau de mon passé et que, bon, en tout cas, pour l'instant, personne m'a appelé. Et les seuls castings que j'ai passés, c'était l'année dernière, c'était que pour des rôles de mecs trans. Donc, ça veut dire que, alors, à la fois, c'est bien, parce que ça veut dire que maintenant, les directeurs de casting et les réalisateurs font attention à prendre des mecs trans pour des rôles de mecs trans, ce qui est déjà un progrès. Pour autant, dans mon cas, en tout cas, je n'ai pas encore eu d'opportunité de rejouer des rôles de mecs cis. Et j'espère que ça arrivera, parce que sinon, je trouve ça un peu raide.
On écoute un peu de musique, un choix de notre invité Océan, Anthony, For Today, I'm a Boy.
One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today I am a boy. One day I'll grow up, I feel the power in me. One day I'll grow up, of this I'm sure. One day I'll grow up, I'll know a womb within me. One day I'll grow up, feel it full and pure. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today,
dans le genre,
dans le genre,
dans le genre.
De.
Océan, quel rapport vous entretenez avec votre physique?
Toujours très compliqué. C'est-à-dire que j'espérais que faire ma transition me débarrasse des trucs vraiment de que les femmes ont quand même plus, à savoir les complexes, le fait de toujours se trouver trop grosse, trop ci, trop ça. Et je me disais, ouais, les mecs, eux, ils s'en foutent un peu plus. Donc voilà. Et j'ai eu une phase où ça m'a un peu fait cet effet-là, où j'étais là, oh, je me sens bien, c'est cool. Et puis en fait, tout est revenu. C'est là aussi où je vois que je suis vraiment un homme trans, c'est pas un homme cis. C'est que ces obsessions de toujours me trouver pas assez ci, pas assez ça, trop gros, trop machin, je les ai toujours. C'est tellement structurel que voilà.
Des complexes qui sont très féminins, quoi.
Ouais, enfin, des complexes qui sont quand même très féminins. Et c'est en ça que je vois que voilà, j'ai pas trop changé. J'aurais bien aimé changer là-dessus et m'en débarrasser. Et malheureusement, bon, c'est quand même mieux qu'avant, ça va quand même mieux. Et je me sens mieux dans mon corps maintenant. Et donc, mais je reste quand même toujours complexée et pas à la hauteur de ce qu'il faudrait être. Donc, c'est compliqué.
Qu'est-ce que vous mettez en avant pour séduire, vous ?
Mon écoute et mes blagues, je crois. Un mélange des deux.
Est-ce que votre désir a changé ou pas du tout ? C'est une question idiote que je vous pose.
Non, c'est pas une question idiote, parce que c'est même une question intéressante, parce qu'il y a beaucoup de trans qui ont un peu, qui changent en fait, dont l'orientation sexuelle parfois se modifie ou en tout cas s'ouvre, parce que moi j'ai beaucoup de copains qui sont devenus bi alors qu'avant ils étaient lesbiennes et qui maintenant sont bi, que ce soit avec des mecs cis ou des mecs trans. Moi je me suis demandé s'il y a des choses qui allaient changer de cet ordre-là. Ce qui est sûr, c'est que de déconstruire intellectuellement les questions de genre, ça vient agir aussi forcément sur le désir. En tout cas, je le souhaite, et je pense que je suis plus ouvert. Après, il s'avère que malgré tout, là, j'ai eu les rencontres que j'ai faites, c'était avec des femmes cis. Donc, apparemment, ma sexualité est encore très primaire. mais je sens qu'aujourd'hui, je pourrais être attirée par des femmes trans. En fait, je me rends compte que le féminin me plaît, mais il peut se loger à plein d'endroits. Et il y a des mecs trans que je trouve hyper séduisants. Alors, pour l'instant, c'est pas arrivé que je les trouve séduisants au point qu'il se passe quelque chose. Mais en tout cas, je me le souhaite, en tout cas, parce que je pense que c'est vraiment cool de pouvoir être attiré par une personne avant tout, quoi.
Est-ce que vous auriez aimé être un homme très différent de celui que vous êtes en train de devenir ?
Franchement, non. Franchement, les hommes cis, déjà, je trouve qu'ils sont, enfin, ils sont problématiques malgré eux ou pas malgré eux, mais en tout cas, j'aurais vraiment pas aimé être un mec cis. Je suis vraiment, même si parfois c'est lourd à porter et qu'on vit de la discrimination et tout, je suis vraiment content d'être un homme trans parce que je me sens tellement connecté aux femmes, et même ma transition, bizarrement, pour moi, c'est le geste le plus féministe, féminin que j'ai pu faire. C'est-à-dire que pour moi, c'est ça, être une femme, c'est s'émanciper, être qui on est, se libérer de tout ce qu'on attend de nous. Et dans mon cas, c'était devenir un homme, mais ça peut être faire du travail du sexe, ça peut être se voiler, ça peut être être grosse et bien dans sa peau et vraiment et envoyer chier tous les gens qui penseront le contraire. Enfin voilà, ça peut être faire du... Enfin tout, enfin, je veux dire, c'est juste se réapproprier son corps, en fait. Et du coup, en ce sens-là, bizarrement, plus je suis un homme, plus je suis une femme, dans le sens où je l'entends.
Merci Océan, c'est la fin de cette émission. Elle a été réalisée par Benoît Thuot. Nous, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité. D'ici là, soyez unique en votre genre. Bonne soirée sur Nova.
Dans le genre.
Dans le genre.
Une émission à retrouver en podcast sur nova.fr.